Bonjour et bienvenue sur le podcast de Je bosse en grande distribution. Dans cette nouvelle mini-série, j'ai invité Yvan Riocru-Reiss, président de Formapassion, organisme de formation pour les pros de la grande distribution. Yvan est un grand spécialiste des rayons métiers et connaît parfaitement les enjeux actuels. Dans cette mini-série, on aborde le contexte actuel et on donne des clés pour réenchanter les ventes et l'expérience client. Très bonne écoute à tous. On poursuit notre série consacrée aux métiers, aux rayons métiers en grande distribution. Alors, j'ai un petit peu moins de contexte. On va parler des rayons traiteurs, charcuterie, fromagerie. On va tous les regrouper. Alors, j'ai un peu moins de contexte parce que je les connais moins personnellement. Mais c'est des rayons porteurs. C'est des leviers de différenciation aujourd'hui entre magasins. On a des magasins qui cuisinent maintenant. C'était pas forcément le cas il y a quelques années, qui fabriquent eux-mêmes.
Bien sûr.
Quel est toi ton regard sur ces différents rayons et même en termes de marché, est-ce que tu as peut-être des chiffres éventuellement à nous donner sur ce qui est porteur aujourd'hui sur ces rayons?
Alors, sur le rayon, on a l'habitude de le regrouper avec charcuterie, fromagerie, point chaud, tu viens de l'évoquer. Ouais. Ce sont des marchés effectivement très porteurs. Alors, n'oublions pas déjà qu'on se situe sur le territoire national français. Donc, ça inclut dans cette partie-là qu'on vient d'évoquer les fromages. Donc, bien évidemment, on ne peut pas déroger à une notion de terroir. Terre plus territoire égale terroir. Donc, c'est quand même une partie de nos produits frais dans lesquels nous avons le plus d'appellations, de labellisation et de signes identitaires forts d'une culture franco-française en termes de consommation. Donc, ne l'oublions pas. Le deuxième fil directeur, c'est que c'est un rayon où le leitmotiv, c'est vraiment accompagner, puisque pour plus de 80% des cas, le rayon charcuterie et fromagerie, ces deux rayons sont regroupés. C'est-à-dire que la personne qui est en vente traditionnelle est derrière le stand. Parlons d'une emblématique accompagnement de vente sur de la raclette. Nous gardons la même interlocutrice ou le même interlocuteur pour la partie carnée que la partie fromagère. Donc, nous avons vraiment une spécificité qui est très, 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 très particulière. En termes de chiffres aujourd'hui, nous avons des rayons qui sont porteurs en termes de croissance. Alors, en particulier, le point chaud qui aujourd'hui est sur des bases de croissance à deux chiffres autour de progression situées à 12-15%, notamment porté par une offre snacking, mais également justement par les recettes spécifiques que tu évoquais. Pour la partie charcuterie, fromagerie, ça se passe très très bien également avec un vrai rebond post-Covid. J'ai besoin d'être rassuré, je veux un interlocuteur fiable et je peux aussi, par le biais du rayon traditionnel, tout simplement adapter mes quantités puisque j'aurai un conditionnement très très précis et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, dans la majorité des cas, quand vous vous servez au rayon traditionnel, vous payez moins cher qu'un libre service du rayon produits frais. Donc, on a vraiment la possibilité d'aller chercher tous ces conseils cumulés qui sont vraiment vraiment importants. Donc, on a un fil rouge qui est l'accompagnement du client, ça c'est une évidence, et on a un besoin en parallèle qui n'est pas forcément tout le temps comblé, qui est ce besoin de polyvalence. Traditionnellement, quand on se situe en tant que client et que nous sommes accompagnés, servis par un vendeur ou une vendeuse sur ce rayon, nous ressentons assez rapidement si cette personne est plutôt du côté fromage que du côté charcuterie. Et là, on a un vrai effort à faire en termes d'accompagnement de nos équipes pour pouvoir justement leur donner cette double compétence et répondre à ce besoin de la clientèle avec une ligne directrice dans l'explication du choix. Je pense aux labellisations. J'aurais deux exemples assez précis parce qu'ils sont très fortement présents, notamment sur la fromagerie, l'appellation d'origine protégée, par exemple, le label rouge, qui vont nous permettre d'expliquer aux clients en quoi il y a cette différenciation-là. Il y va d'un terroir et avec une passation de ces produits. Si nous voulons que ce produit existe encore, nous le labellisons et nos enfants, nos petits-enfants pourront encore en bénéficier. Encore faut-il être capable de l'expliquer au regard de la clientèle. On a vraiment un boulevard devant nous de travail hein, sur ce sujet. C'est énorme.
Ouais, parce que les conséquences sur les métiers sont énormes. On n'est plus dans la vente assistée, on est dans la préparation. En fait, finalement, les chefs de rayon aujourd'hui, ce sont des anciens de la restauration, souvent.
Oui.
Vous devez former énormément de personnes sur ce sujet-là.
Exactement. Alors, énormément de formations. D'ailleurs, c'est intéressant cette petite parenthèse parce que nous avons énormément de personnes qui nous ont rejoints durant la Covid. Ne pouvant plus travailler en restauration, sont venus travailler chez nous, sont repartis alors essentiellement parce que il y a des systèmes de rémunération, notamment par les pourboires en restauration, qui n'existent pas dans nos secteurs. Et donc, il y a une vraie différenciation aussi à réfléchir sur ces rayons-là traditionnels, en disant certaines enseignes ont essayé de faire des accompagnements par des codes vendeurs pouvoir justement avoir des primes par rapport à un variable sur les salaires. Il y aurait beaucoup à dire en disant ben, qu'est-ce qui pourrait être fait dans cette partie-là. L'autre partie que tu évoques qui est importante, c'est la préparation, parce que ce sont aussi des rayons dans lesquels nous avons une présence de tout ce qui est fraîche découpe préemballée sur place, qui est juste énorme. Et moi, je constate aujourd'hui, par méconnaissance et manque de savoir-faire, de gros écarts à l'heure actuelle dans ces parties-là. Pourquoi emballer du fromage le matin et faire des portions qui soient systématiquement identiques? En fait, on se prive d'un choix porté à la clientèle. On se retrouve avec des parts de fromage qui ont toutes la même valeur en euros, les mêmes grammages et dont aucun intérêt. À l'inverse, je retrouve des non-sens économiques, des barquettes de fromage à 1,20 €. On a pour plus cher d'emballage que de fromage. Mmh. Et donc, on a un vrai souci sur cette exposition à la vente et parfois des rayons qui font des doublons. J'ai la même gamme sur mon libre service que j'ai mis en place par de la découpe sur place que sur mon rayon trad. Et c'est un peu dommage de ne pas réfléchir et solliciter une offre qui soit un peu différente. Et dans la suite de tout ça, on a quand même une partie qui est vraiment à part, que dénommé historiquement point chaud, dans lequel on pourrait aussi inclure la rôtisserie, ne l'oublions pas. On est ici sur un outil marketing phénoménal par un marketing olfactif évident, qui souvent est, je dirais, géré avec un temps d'avance ou de retard. J'ai une cuisson des poulets très tôt le matin, et donc à 11 h, au moment où je pourrais solliciter l'appétit de mes clients, ça ne sent plus le poulet rôti en magasin, donc c'est un peu dommage. S'équiper d'une cellule qui permette d'avoir un maintien au chaud, de répondre aux obligations légales et d'apporter un côté vivant et démonstratif à une partie du rayon qui devrait quand même être un des cœurs du rayon produits frais, quoi, tout simplement. Ça qui est compliqué.
C'est un beau terrain de jeu, hein, ce rayon traiteur. Les magasins, ils veulent retrouver un peu cette ambiance de marché. Tu parles de rôtisserie, on parle d'odeur, de saveur. On a vu des produits exploser ces derniers temps. Moi, je pense à la pizza fait maison. Beaucoup de magasins s'y sont lancés. Est-ce que tu vois d'autres initiatives émerger qui, pour toi, vont s'installer durablement dans les années qui viennent?
Bien sûr. Déjà, dans la suite du point chaud, au-delà des pizzas, il y a toute la suite logique avec évidemment des familles de fougasses, par exemple, et bien d'autres évolutions. Sortir du sacro-saint poulet rôti pour aller vers des jambonneaux, des jambons, d'autres produits de rôtisserie qui sont très très sympathiques et qui peuvent apporter des éléments de différenciation, notamment aller travailler via des épices particulières, des recettes spécifiques au point de vente qui amènent une signature. L'idée, c'est d'aller chercher justement des signatures inspirées de la cuisine, hein, des plats signatures, des recettes signatures. J'ai vu des choses très intéressantes dans de nombreux points de vente. La pizza de la semaine, qui a pu aussi être un joli petit clin d'œil par rapport à l'équipe. Quelqu'un dans l'équipe vient d'être papa. On a créé une petite recette ensemble. C'est le prénom de la fille de ce garçon qui crée une dynamique humaine aussi. Ça peut être intéressant. N'oublions pas des marchés porteurs. Tu l'évoques, mais tout le marché des jambons, et notamment les chiffonnades qui sont historiquement en place, mais qui continuent à surperformer, à condition qu'on les présente de manière démonstrative et qu'on puisse jouer sur un levier qui est très, très peu présent, et c'est malheureux, il a été complètement lissé par le manque de main-d'œuvre et la dégustation. Parce que là, pour le coup, il y a une vraie marche qui peut se faire, se franchir par le fait de faire déguster son client en dégustation active, j'insiste. Parce que la dégustation passive a ses limites. Toutes les équipes préparent des dégustations passives lorsqu'elles ont du temps libre. Il faut bien comprendre que ça touche quasiment au ridicule. Je prépare un plateau de jambon pour mon client qui viendra dans 2 heures. Je l'ai exposé au chaud à la vente. Ça devient tout simplement juste inadmissible puisque, à part avoir attiré des mouches pendant 2 heures, ça posera quand même de sérieux problèmes pour la suite. Une dégustation active bien menée, c'est quelque chose qui est un geste positif vis-à-vis du client. Je donne, donc je vais recevoir. Et ça, c'est très important. J'insiste sur le rayon charcuterie, fromagerie et point chaud, parce que c'est là où c'est le plus sensible. Mais évidemment, cette réflexion concernerait quasiment l'ensemble des rayons, et j'allais dire peut-être même le magasin, parce que c'est tout simplement une logique de présence. Par contre, ça doit se professionnaliser. Et il y a une façon d'apporter cette vision-là. Après, pour être complet, parce que la famille fromage, je ne l'ai pas trop développée, on a un besoin de découverte aussi. C'est un des rayons où le client a une très bonne base de connaissances, parce que la France et les fromages, c'est un mariage juste évident. Mais des opérations thématiques sur des fromages étrangers, par exemple, j'ai vu de très belles progressions et des belles choses faites sur la découverte des fromages anglais, par exemple. Ça peut être très intéressant. Et puis les associations de terroirs. Par exemple, accompagner quelqu'un qui débute sur ses rayons, c'est aussi lui dire que tous les produits qui sont issus du même terroir sont habitués à vivre ensemble et fonctionnent bien ensemble, avant même de rentrer dans des choses trop techniques. Un produit de Savoie, un fromage de Savoie se marie bien avec un vin de Savoie. Un magret du Sud-Ouest va bien avec un vin du Sud-Ouest, qui ont grandi ensemble. Ces discours-là rassurent les clients et amènent aussi un effet déjà de connaissances assez intéressant. Mais oui, on a beaucoup de marchés innovants. Et pourquoi pas des offres combinées? Je disais, en poussant jusqu'au bout le raisonnement, d'avoir des planches, qui sont des planches apéritives, par exemple, avec des progressions à 3 chiffres, avec une planche fromagère charcutière disponible pour un apéro ce soir préparé par notre équipe sur place. Ça, c'est très intéressant, au-delà des plateaux de fromage.
Il y a un sujet parallèle sur ces rayons, c'est le recyclage des déchets, c'est l'emballage. Oui. On voit beaucoup la consigne pour réemploi apparaître. Beaucoup de magasins essayent, se cassent un petit peu les dents, oui, parce que le consommateur n'est pas habitué. C'est quoi ton regard, toi, sur ce système de réemploi? Tu penses que c'est viable?
Oui, c'est viable. Et je pense qu'on a franchi une marque, c'est récent, hein, 6 mois en arrière. On commence à avoir la phase de ritualisation. C'est-à-dire que, certes, sur une faible partie de nos consommateurs, mais ils ritualisent le geste et qu'ils en arrivent à avoir des premiers résultats valables d'ailleurs sur tous nos produits frais. Nous avons été relativement bien accompagnés par les fournisseurs aussi, système de tare en balance plus facile à effectuer par rapport à des emballages que les clients pourraient déjà nous amener, par exemple. C'est des choses qui sont intéressantes. Nos industriels stagnent plus rapidement sur les emballages. Bien comprendre qu'on a quand même un point ici de chute qui est compliqué, c'est cette notion de recyclage. Il faut que 100% de notre emballage soit constitué de la même matière. Et là, du coup, ça répond pas tout le temps à notre demande, parce que entre un bas de barquette, un fond de barquette qui devrait être opaque et un haut de barquette qui doit être cristallin et transparent, on peut pas avoir la même matière. Donc ça oblige à deux scénarios de recyclage derrière. Mais au-delà même de l'emballage, il y a aussi le produit. Par exemple, on voit que sur les chutes, les talons de jambon, il y a une vraie demande de la clientèle qui parfois nous amène à des raisonnements qui sont un peu des raisonnements par l'absurde. C'est-à-dire que l'absence dans la gamme de talons de jambon à des prix peu élevés devient une rupture. Alors qu'en fait, techniquement parlant, on se rend compte que c'est pas forcément une ligne présente dans notre offre commerciale. C'est vrai sur les anti-gaspi, hein, avec des réflexions ou des remarques clients parfois allant jusqu'au conflit, en disant c'est pas normal. Et allons plus loin, parce que c'est intéressant de pousser le raisonnement plus loin. J'ai pu voir des visites de directeurs régionaux, de hiérarchiques en magasin, souligner la rupture, alors qu'en fait, c'est un non-sens en termes de gestion. C'est-à-dire que faudrait plutôt applaudir la performance de ne pas avoir eu à utiliser cette ligne-là. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Mais non, c'est des éléments qui sont des éléments qui rentrent en pleine conscience chez le consommateur et sur lesquels nous devons avancer, effectivement. Et implique une logistique par puits. Hein.
Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment, un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou Ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt !